liberté, et liberté, et liberté.
Et tout le monde fait
ouais 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 ouais.
Liberté.
La 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 la.
Liberté.
Ouh lou 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 lou.
Liberté.
DLC.
MRC.
Ducasse.
TLO.
Xiberas.
LCHRN.
Villemur.
Solanier.
Du Marche Zeng.
RZS.
MPZ.
Bonjour chères auditrices et auditeurs.
Bienvenue à vous sur l'émission des Secondes Sapates, service aux personnes et aux territoires du lycée Lavacan à Pavie.
Nous avons passé une semaine à vous préparer ce cocktail de reportages et de témoignages sur le thème de la liberté. Les journées furent longues et intenses, mais pleines d'émotions et de découvertes.
Dans un premier temps, nous allons vous faire écouter les papiers réalisés par Clara, Mathilde et Chloé. Elles vont vous faire partager leur expérience de la liberté.
Quand je vais à la montagne faire du ski, je me sens libre. Personnellement, je ressens de la liberté, car je me retrouve dans un paysage différent, avec des montagnes remplies de neige, cela me phobie le Gers et ses champs. Tous ces virages enlacés, qui montent de plus en plus haut en altitude, me donnent une sensation d'oiseau qui vole. Quand je descends au milieu d'une piste, entendre le bruit de la neige qui glisse sous mes skis, me donne une impression de légèreté. J'ai cette chance de pouvoir partir au ski, de pouvoir skier au milieu des montagnes, de pouvoir pique-niquer sur la neige en plein soleil et de profiter. Quand je chausse mes chaussures, quand je monte sur mes skis et que je commence à avancer jusqu'au télésiège, l'adrénaline m'envahit. Je ressens de la joie mais aussi de la peur. Quand je monte et descends les pistes, quand je skie de la façon qui me convient, j'ai cette liberté de m'amuser toute une journée et de passer une journée en famille.
Liberté.
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 Ma première véritable expérience de la liberté, je l'ai vécue lors d'un voyage à Saint-Nazaire pendant les vacances d'hiver. J'avais 16 ans. Lorsqu'on ressent ce besoin de partir seul, de changer d'air, j'ai pris la décision de partir vers une destination inconnue, de devoir être autonome. Quand je suis arrivée à l'aéroport, il était 6h30. Face à moi, le grand aéroport de Toulouse. Avec ma valise et mon billet, je me suis sentie miniature. La seule chose qui me passe par la tête, c'est cette peur de passer d'une ville que l'on connaît à une ville inconnue, sans repère. Accompagnée de mes proches jusqu'aux portes de contrôle de EasyJet, des frissons m'ont envahi. Une fois les portes passées, en me retournant, un dernier au revoir. Tout excitée par ce voyage, j'ai pris une grande inspiration. Face à toutes ces portes d'embarquement, je me suis dirigée vers un contrôleur. J'ai demandé où était la porte 44 en destination de Saint-Nazaire. Une fois guidée, j'avance vers l'avion. Une fois à l'intérieur, je cherche la place qui était du côté hublot, place F8. Au moment où je me suis installée, je me suis dit que maintenant j'étais livrée à moi-même. Lors du décollage, j'ai eu l'impression d'être dans un manège. Je me suis sentie soulevée du sol, collée au siège, un peu d'adrénaline. Survoler les nuages, apercevoir le ciel d'un bleu intense, le soleil brillant de mille éclats. L'impression que les nuages étaient un immense océan. Une heure de vol, les yeux remplis d'étoiles, comme si j'étais dans un rêve. J'ai traversé la France et à mon atterrissage, les pieds sur terre, sur cette destination tant attendue. À ce moment-là, je me suis dit que j'étais libre.
La dernière fois que je me suis sentie libre, c'était lors d'un concert, avec l'orchestre dans lequel je joue. Quand je suis arrivée à la salle de concert avec mes amis, nous sommes allés poser les instruments, puis nous avons rejoint les autres personnes pour les aider à installer la scène, mettre les chaises, les pupitres, mettre les percussions et décorer la scène. Après avoir décoré la scène, on a répété quelques morceaux. Après la répétition, on a posé les instruments. Puis nous sommes allés prendre l'apéro. J'aime bien. Je suis partie ensuite avec mes amis me mettre en tenue de concert. Bas noir avec haut noir. Et bien sûr, les talons noirs. Quand j'ai eu fini de me préparer, je suis retournée dans la salle, poser mes affaires et chauffer la clarinette avant le concert. 10 minutes plus tard, le chef d'orchestre est arrivé et nous a appelés par instrument. Clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, euphonium et tuba pour nous accorder. Après être tous accordés, on est entré dans la salle où il y avait les spectateurs. Pendant que nous montions sur la scène, on nous a applaudi et nous nous sommes installés à nos places. La chef d'orchestre arriva sur scène et présenta le morceau. Elle nous fit signe de nous asseoir. On commença à jouer. C'est à ce moment-là que je me suis sentie pousser des ailes. C'était un moment merveilleux. J'avais l'impression de m'envoler. C'est tellement magique, cette sensation que je vis à chaque concert. Pour moi, je suis aussi libre qu'un oiseau. Après le concert, les personnes dans la salle nous ont applaudi et là, j'étais heureuse.
Maintenant, je laisse la parole à Jennifer et Maëva qui vont vous présenter leur reportage sur un jeune Malien nommé Oumarou.
En effet, nous avons rencontré Oumarou qui a 19 ans et qui nous a raconté dans les moindres détails comment il a fait pour parcourir 4920 km de Sibi au Mali jusqu'à Toulouse. Il est parti de son pays étant donné qu'il y avait la guerre et que ses parents n'avaient pas mangé à leur faim. Il est donc parti pour mieux vivre, travailler comme il faut et aider sa famille.
Il a été beaucoup aidé lors de son arrivée en France. Il a réussi à avoir ses papiers et il ne cesse de remercier les personnes qui l'ont aidé. Il ne les oubliera donc jamais car grâce à eux, il a maintenant une vie meilleure, il travaille mieux et il fait ses études au CFA à Pavie. Cela a été très émouvant. Nous avons eu toutes les larmes aux yeux, mais nous avons surtout apprécié ce magnifique moment passé à ses côtés, à écouter sa belle histoire. Il nous a raconté tout de suite comment il a réussi à traverser le grillage entre le Maroc et l'Espagne.
À 2h du matin, on s'est levé, on a marché jusqu'à 4h du matin. Donc les militaires ils savent parce qu'il y a des radars qui quittent en Espagne, au Melilla, pour aller à la montagne où on est. Donc on est resté couché sur le sol, personne ne bouge. On était 350 personnes quand on a attaqué le grillage. Après, c'est vers 5h comme ça. On a commencé à attaquer le grillage. Le barbelé, il m'a pris tous mes pantalons. Je ne savais pas comment attaquer le grillage. C'était ma première fois même de toucher le grillage. Le barbelé, il m'a tapé tout. Je me suis reculé derrière. Je n'avais pas de chaussures. Je me suis approché aux barrières. Il y avait plein d'hommes partout, quoi. Je ne sais pas comment je vais monter. Donc, j'ai mis ma tête sur les fesses de quelqu'un pour le pousser. Pour que lui avance, moi je passe. Donc je l'ai poussé avec ma tête, il s'est avancé, moi j'ai mis mes doigts, et puis j'ai grimpé, je l'ai dépassé. Entre les deux barrières, je fais comme singe. C'est là que j'ai raté, ça avait arraché, mais toujours il y a la tasse ici. Quand je suis tombé, je me suis réveillé rapidement pour attaquer le deuxième encore. Quand je me suis tourné, la barrière s'est déchirée, s'est lâchée quoi. Donc c'est là beaucoup de gens qui sont tombés, des pieds cassés, des bras. Donc moi j'ai descendu, j'ai pris le troisième. Le troisième, il y a un policier militaire qui était au-dessus. Il ne voulait pas que je descende. L'autre côté, il y avait beaucoup d'hommes qui passent. Moi je suis sauté, il s'est retourné vers moi. Il ne m'a pas eu. L'endroit que je me suis sauté, il y avait toutes les bouteilles qui sont cassées, qu'ils ont versées là-bas, que je suis planté dedans. Oh. Là j'ai senti que vraiment ça ne va pas. Tout au-dessous de mon pied s'est déchiré. Après ça, j'ai couru pendant 1 km avec des piquants. Comme ça, je n'ai pas de chaussures. Après, on est allé rentrer dans une grande tunnel. J'ai demandé aux collègues, aidez-moi à me faire monter. Après, moi, je vais vous aider à monter. Et il me dit, ah, chacun se débrouille ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui a aidé son ami. Donc, il a attrapé sa main avec l'autre pied, un pied qui est resté en bas. Celle-là, moi, j'ai pris ça avec ma main et j'ai sauté pour attraper l'autre. Donc, quand je suis monté, je l'ai aidé à monter en même temps. Ceux qui sont en bas, ils me disent « Aidez-nous !» Je dis « Pas moi !» Pas moi. Donc, moi, j'ai commencé à me chercher. Il y a des gens qui disent « Maintenant, c'est bon, allons-y tranquillement parce qu'on est en Espagne, il n'y a plus de problème. » Là, les policiers, ils sont rapides. Quand ils téléphonent, c'est rapide. Ils sont sortis, ils sont venus. Quand moi, j'ai sorti devant la voiture du policier, il est sorti vite et puis il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus, c'est quelque chose, c'est pas une balle vraie, mais c'est une balle. Si on te tire, c'est comme, je sais pas. Et puis tu tombes, quoi, tu peux pas bouger, il vient t'attraper. Donc ça m'a eu sur ma fesse. Donc je me suis débrouillé avec une seule pied. Et je me suis allé cacher dans une vieille maison des militaires. Et donc, il y a trois jeunes comme moi qui m'ont suivi pour aller rentrer là-bas. On a fait 2 jours comme ça là-bas, sans manger, sans boire, ni rien fait. Toutes mes pieds sont gonflés. Mon fesse est gonflé. J'ai du mal, j'ai la douleur. Je ne peux rien faire. Donc, la nuit, on est sorti. Il y avait une grande poubelle à côté. Celle-là, on a trouvé des gâteaux pourris, du pain sec comme ça. On a pris ça, on a mangé. Et puis, on a sorti la tête. On a vu un jeune espagnol. On dit, où se trouve la cité d'immigration à Melilla? Ils nous ont dit là-bas. Là, moi, je n'ai pas cherché à comprendre. On a marché. Donc, arrivé à la cité, tout le monde est content. Tout le monde dit, Boza, Boza, bon arrivée, bon courage. Donc, il prend nos prénoms, nos noms, tout ça là, et puis il nous envoie à la police. La police, il nous fait une carte de sécurité, quoi. Donc, j'ai fait 3 mois à Melilla. Le 3e mois, mardi, on est quitté à Melilla. On est venu à Barcelone.
Parmi les autres personnes qui ont traversé le mur,
oui.
Est-ce qu'ils ont tous pu traverser le mur?
Non. On était 350, il n'y a que 130 personnes qui ont réussi. 130 personnes qui ont réussi. Et puis les 4 dernières personnes, c'était nous, hein, derrière. Avant que nous, on arrive à la cité d'immigration, il y avait 40 personnes, ils l'ont fait tous sortir. Donc arrivé là-bas, il y a des amis qui étaient avec nous, qu'on a fait de l'attaque de garage le même jour. Qu'ils nous ont expliqué que vraiment on a eu la chance. Tu vois, vraiment on a eu la chance.
Quelles ont été les épreuves faciles et difficiles?
Les épreuves faciles et difficiles. Le facile, c'est où je suis là. Hein? Ça, c'est le facile parce que je peux dire ça, c'est le plus facile même. Parce que la difficulté, le premier jour, j'ai quitté chez moi, c'était trop difficile. Parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais me séparer de mes parents comme ça. C'est vraiment, c'est truc de dingue, quoi. Oui.
Qu'est-ce qui vous a touché dans votre aventure?
C'est-à-dire?
Je ne sais pas, par exemple, les personnes, ce qui s'est passé dans votre voyage, qu'est-ce qui vous a le plus fait ressentir des émotions?
Oui, le plus, c'est des amis qui sont... Ils ont été tués dans le désert. Là, je ne peux pas les oublier. Ça me fait très mal au cœur quand je le parle. Tu vois. Ils sont sortis de chez eux pour aller chercher le bonheur comme moi. Qu'ils ont été tués dans le désert à cause de l'argent, des débrouillés. C'est vraiment... Ça m'a touché. Et j'ai rencontré des amis aussi... Quand on est venu à la montagne, à Gorogo, qu'ils n'ont pas réussi à rentrer en Europe. Ils veulent une vie meilleure comme moi. Ils n'ont pas réussi. Chacun a sa chance de vie. Chacun a sa chance de vie. Même mes parents, ils me disent, moi j'ai une chance forte. Sinon, la manière on explique ici en France, tu peux faire 10 ans, 15 ans, plus de 20 ans même, sans trouver du papier. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Depuis que je suis venu ici, tout a été rapide pour moi, avec le travail. Donc, moi, je prie beaucoup ceux qui sont derrière, même s'ils n'arrivent pas à rentrer. Ils n'ont qu'à avoir une vie meilleure où moi je suis aujourd'hui. Là, ça me touche. Oui, ça me touche beaucoup.
Comment vivez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vis une vie meilleure. Oui, une meilleure vie, une vie meilleure. Parce que vraiment, je suis libre. Hein. Je suis bien ici en France. Je dors bien, je travaille. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un depuis que je suis venu en France. Tout va bien. Tout va très bien. Je suis très content, très heureux aussi. Et mes parents sont fiers. C'est ça que je voulais. Oui.
Quelle langue parliez-vous quand vous étiez en Afrique? Et si c'est une langue autre que française, pouvez-vous nous dire quelques mots?
Ah, Okuma et Sisane. Je parle ma langue. Ma propre langue, c'est Malinké. Mais en principal, le Mali parle Bambara. Donc, si toi, tu veux que je te dis quelque chose de ma langue, quel mot tu veux que je te dise, tu me le dis.
Je suis heureux.
Et Contana.
Et comment vous dites je suis libre?
Je suis libre. Si ça ne t'aignerait quoi? Si ça ne t'aignerait. Ça dit, je suis libre total quoi. Oui, je peux faire ce que je veux, sauf ce qui est condamné. N'taignerai. Oui, oui.
Quel âge avez-vous?
Aujourd'hui, moi, j'ai 19 ans. Le 15 janvier, il m'a fait 19 ans.
Est-ce que tu pourrais nous faire écouter une de tes musiques que tu écoutais dans ton pays d'origine, s'il te plaît?
Oui.
Je n'attends pas, là-bas faut le répéter encore. Nous m'a fort, à rendez-vous à 20h, voir son crédit est mort. En 2012, les ailes, nous aurons la débeu sur le coup ma belle. N'a pas de coup ma blanche, à fond les mimi ou les chignons. J'aime au souffle, Michel, il m'a filé. Demande les gars, Sophie, à ta noyer. Demande les méfis, go yinti. Inniché de n'yon à Fukenji. Nego souffle, Michel, il m'a filé. Avant que je te dise bye bye, j'aimerais te donner un petit détail. Quand on m'a donné une tarata sur Sofia, go watan woro. N'ayez la foule barasa, n'a pas de frangini en kodo. J'assume ou l'ouko se fa, ou tu m'as lanté, y'a un plaso. N'a même pas de jide pour me, fini à se benga ordonnance là. Nous mettons un blog là, car il s'est toujours balancana. Terrigue, on a un nègre, on a un foro de qui te banakoi. Côte d'Ivoire, moulare, rebe, y'a la pika, kajurukani. On est d'yens, c'est bina, kalibi, c'est bédo, shimani, mbirigi. La vie est une leçon, nisa égale, regrette. Sofia ni Fukenji, Facebook ou de Noenbe. La boue est bien sapée, alibi, go ou j'allèvre. Les matelas ton ta géré, à la kamanga, n'a yon fichi. Django souffle, michi, ni befine. N'aime de l'égard, Sofia, ta yoye.
Le rap préfère être dédié violeur ou bien un gros menteur. En 2004, Dieu perd l'homme, maintenant date pour mon frère. À l'égal, la modéni Sophia est une vraie minère. Kassoro Sophia ni Alpha Blondier, des fous qu'ils n'auront fait. Je m'en à la fois comme Zer, appelé Madonna Grand Zer. Sumuru ni Zenga Sui, ma foi d'aime Zen Fini Nini. Kassoro ni a capotré, basora moteur et bête tout l'unoro. En tega mogo korofo, en andoko nun koloshi, soukra grifini kanaboroto. Deni me ko guitar, ni a korodora abi lamine. Demoiselle facile, abiko iPhone, touche magnétique. Tu man bawu ni ñokon ci wulu ni me dor dem seni nege bon chief la ka ngo ala bonima asunguru ni soke bali mianga ka we ala mfiana ken di ye taxi man f2h c'est jango sou fe mi ci limbe fine le man de la sofia ta ñoy ye en ngele me fi go yinti ni ci de ñona fu ken di ne ko sou fe mi ci limbe fine. Avant que je te dise bye bye, j'aimerais te donner un petit détail.
Ouais. Même Dieu quand il sera la limbaye.
Vous venez d'écouter le morceau préféré d'Oumarou, Sophia, du rappeur malien Fukenji.
Si vous avez aimé les premiers papiers, vous allez encore apprécier ceux de Chloé, Laura et Jennifer.
Je me sens libre quand je danse sur scène, quand je fais des spectacles parce qu'il n'y a pas d'obstacles. Je peux être libre de mes mouvements tout en respectant la chorégraphie. Je peux m'exprimer avec mes gestes, je me sens moi-même. On a plein d'émotions qui nous traversent, l'angoisse, la concentration, la joie, l'excitation. À aucun autre moment je ressens cette liberté. J'ai l'impression d'être sur mon petit nuage, de m'envoler. Mais je ne me vois pas danser en cours ou même dans la rue. Ce serait pas pareil, pas les mêmes ressentis. Sur scène, on est un auteur sous les yeux du public. En plus, en modern jazz, on bouge beaucoup. On fait des gestes avec les bras et les jambes, de grands mouvements au sol comme dans l'air, ce qui me donne une impression de liberté. Je pense plus à rien. Je me concentre sur la chorégraphie, sur la musique. C'est comme si j'éloignais et jetais tous les moments oppressants, les stress, la tristesse ou la colère. Les musiques sont modernes, rythmées. On avait fait par exemple une chorégraphie sur la musique de Hunger Games, où on faisait toujours les mêmes mouvements, en boucle. Ça me relaxait, je me sentais libre.
Première expérience de liberté a lieu dans mon centre équestre, le jour de mes résultats de mon épreuve du galop 5. Le galop 5 permet une autonomie entière à cheval. Quand j'arrivais au centre équestre, je me mis à courir vers la salle du club pour découvrir mes résultats. Je l'avais eu, c'était génial. Ça voulait dire que je pouvais être libre de faire ce que je voulais à cheval. Après avoir été envahie par cette joie immense, je partis dans la carrière pour demander à mon moniteur si je pouvais partir en promenade toute seule, et si je pouvais prendre Fiesta pour cette balade. Gérard, mon moniteur, avait accepté. Fiesta, la jument que je prenais ce jour-là, était gris pommelée avec une crinière noire et une tache blanche sur le front. Ça me faisait bizarre de partir toute seule, mais en même temps j'étais heureuse d'avoir un peu de liberté. Je partais vers le box de Fiesta pour la préparer, mais avant j'étais passée à la sellerie pour prendre sa selle, un tapis et son filet. Je lui mis son tapis, sa selle, puis son filet. Je régla sa sangle et partis chercher mes affaires. J'ai mis ma bombe et pris ma cravache. Avant de partir vers les vastes champs, je prévenais Gérard de mon départ. Et je partis enfin vers un chemin libre, sans obligation. Après un petit quart d'heure de détente au pas, je trouvai un petit chemin d'herbe et pris le petit trou. J'arrivai à 500 mètres à peu près d'une petite mare et pris le galop en la traversant. À ce moment-là, je me sentais bien, libre et encore une fois sans obligation. Après cette traversée magique, je partis pour 15 minutes de grand galop à travers champs pour rejoindre le centre. Et à ce moment-là, la liberté m'ouvrit ses bras.
Liberté,
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 liberté.
Quand j'écoute de la musique tous les jours, je me sens beaucoup plus libre chaque jour. Quand je veux être libre en moi, j'écoute des musiques qui bougent pour moi et qui me défoulent. Mon style de musique est surtout le rap comme Kaaris, Jules, SCH, Booba. Leur rythme de musique ou même leurs paroles se propagent dans mon corps. La joie de vivre ou de la liberté qui sort de mon cœur comme la joie d'écouter. Il me faut tout le temps de la musique pour que je ressente la liberté qui monte en moi. La musique c'est surtout un moment où je chante, où je danse comme une folle. Quand j'écoute pas de la musique, je me sens pas libre, je suis oppressée. Il me faut au moins une minute de musique pour être bien. Quand je suis dans une musique, je me mets dans le noir, complètement. Et j'oublie tous mes problèmes. À ce moment-là, je me mets dans la peau d'une personne qui est dans la musique et là, je me trouve dans le clip. Et je fais tout ce que l'on doit faire, le week-end ou dans le bus. Donc en plein jour, je me sens mal. J'ai besoin d'être dans le noir. Il faut que je me projette dans le clip. Je dois être dans le noir. Le noir, ça m'aide tellement à être posé, à être libre.
Nous avons eu envie de mettre en lumière une période forte de l'histoire de France qui nous permet d'être libre aujourd'hui, la Résistance. Chloé va vous présenter ce reportage réalisé au musée de la Résistance d'Auch.
Nous sommes allés au musée de la Résistance qui se trouve à Auch. Nous avons rencontré M. Edgar Castera qui nous a fait une visite guidée du musée et qui nous a parlé en même temps de l'histoire de la Résistance. Loujane, à qui je fais un petit coucou car elle n'est pas là aujourd'hui, et moi avons réalisé une interview de M. Edgar Castera qui va se présenter.
Je suis donc Edgar Castera. Je suis membre de l'association du musée de la Résistance et de la Déportation. Et à ce titre, avec d'autres personnes, je fais visiter le musée aux personnes qui le souhaitent, aux scolaires. Et je fais partie aussi d'une autre association de mémoire qui s'appelle l'ANACRE, qui est une association qui regroupe d'anciens résistants et ce que nous appelons les amis de la résistance.
Quel est l'objectif de ce musée? À quoi sert-il?
L'objectif de ce musée, c'est de transmettre une mémoire d'abord. Savoir faire connaître ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans notre département, mais aussi peut-être d'une façon plus générale un peu partout en France et dans le monde. Mais nous ciblons ici essentiellement le département. L'objectif donc c'est faire connaître cette période-là, mais aussi appeler à la vigilance parce que quand on regarde certains événements qui ont eu lieu dans les années qui ont précédé la guerre, eh bien, on se dit que quelquefois, on est appelé à être particulièrement vigilant pour ne pas être appelé à les revivre.
À qui s'adresse le musée et les objets qui sont exposés, du coup ?
Alors, le musée s'adresse à tout public, avec une priorité, les scolaires, les lycéens, les collégiens, de façon, comme je vous le disais tout à l'heure, à faire connaître cette histoire.
En quelle année la résistance a-t-elle commencé ?
C'est assez difficile de répondre à cette question. Si on a comme notion de résistance ces groupes armés qui vont lutter contre les nazis. Alors, la résistance, elle s'est structurée petit à petit. Dès le départ, Dès l'invasion de la France par les Allemands, il y a des gens qui ont refusé cette privation de liberté, le fait d'être dominé et d'être sous la coupe des nazis. Au début, il y a eu l'appel du 10 juin du général de Gaulle, mais il y en a eu d'autres appels. Et puis, il y avait aussi chez certains une culture antifasciste. Ceux qui avaient aidé les républicains espagnols, eh bien, ceux-là se sont engagés très rapidement dans la résistance. Donc, la résistance s'est structurée petit à petit jusqu'au 27 mai 1943, sous l'impulsion de Jean Moulin, quand tous les mouvements de résistance se sont regroupés et ont reconnu comme chef le général de Gaulle.
Pourquoi la résistance a-t-elle eu lieu ?
Pouvait-on accepter les conditions de l'armistice ? Pouvait-on accepter que le peuple de France devienne un peuple d'esclaves à la merci des Allemands ? Pourquoi la résistance est acceptée ? Parce que des gens ont refusé ces choses-là, des gens qui venaient d'horizons très divers, de philosophies très différentes, mais qui se sont retrouvés dans un combat commun pour la liberté.
S'est-elle passée dans le Gers et ailleurs ?
Le Gers a été un pays de résistance. Il y a eu plusieurs mouvements de résistance. Le Gers est un pays de résistance et le Gers s'est libéré tout seul.
Pensez-vous que la résistance a eu lieu pour que les populations se sentent plus libres ?
Bien sûr. C'était un des objectifs fondamentaux de la résistance. Hein.
Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret ?
C'est pas indiscret. Je suis né juste avant au début de la guerre. Je suis né en 1940, donc vous voyez ce que ça peut faire. Et donc, je n'ai pas de souvenirs de cette époque-là, si ce n'est deux ou trois flashs de cette époque-là, et en particulier, mes parents étaient dans la clandestinité, puisqu'ils étaient dans la résistance, et je me souviens, à un moment donné, nous étions à Cazobon, j'avais 4 ans, et quand les Allemands ont investi Cazobon, je me souviens de leur arrivée, parce qu'il y avait certainement une très forte pression à ce moment-là. Voilà.
Qu'est-ce que c'est pour vous le mot « liberté » ?
Le mot « liberté », c'est un concept qui est très large, le mot « liberté ». Le mot « liberté », c'est la liberté individuelle. On dit quelquefois que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, celle d'autrui. Mais ça ne peut pas être sans un cadre, parce que sinon, si on parle de la liberté du renard dans le poulailler, c'est une forme de liberté. Mais il faut que la liberté soit, me semble-t-il, encadrée par des lois, mais des lois qui soient issues du suffrage universel, c'est-à-dire des lois qui soient majoritaires et partagées. Voilà. Après, il y a la liberté, elle regroupe plusieurs choses. C'est la liberté individuelle, mais aussi la liberté d'écrire, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Voilà. Donc, la liberté, c'est quelque chose de fondamental et qui est un combat, me semble-t-il, un combat quotidien.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Vous venez d'entendre le chant des partisans.
Nous vous livrons encore quelques confidences des papiers d'Émilie, Colline et Loujane qui vous offrent leurs sentiments et émotions.
Avec maman, nous nous disputions tout le temps. Elle ne me laissait jamais sortir et on s'entretuait en s'énervant l'une sur l'autre. J'en arrivais souvent aux larmes. Depuis quelques mois, maman a compris que je devenais grande. En 2017, à l'année de mes 18 ans, elle m'a laissé entièrement prendre des initiatives, des responsabilités, être autonome. Depuis, entre elle et moi, il n'y a plus de disputes. Nous ne nous sommes jamais dit « je t'aime », mais cela n'empêche pas l'amour que nous éprouvons l'une pour l'autre. Nous n'avons pas besoin de nous le dire, nous le savons. Je serai toujours sa fille et elle sera toujours ma maman. Elle me verra toujours petite, mais a compris que je devenais indépendante. Le premier jour où elle a pris la décision de me laisser faire, je me suis sentie libre. En prenant du recul, je réalise que maman avait raison. Elle n'a jamais eu tort, elle avait juste peur. Elle était effrayée par les préjugés et les craintes que les parents peuvent avoir sur l'adolescence et ses dangers. En conclusion, la liberté c'est aussi savoir dépasser ses peurs et savoir se faire ou faire confiance.
Liberté.
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 Le mot liberté me fait penser aux vacances. Quand je suis partie en croisière il y a 2 ans, je me suis sentie complètement libre pour la première fois. Pendant la semaine, chaque jour, le bateau s'arrêtait dans une ville différente. Barcelone, Valence, Île Canaries, Cagliari, Rome, Savone et Marseille. Je me souviendrai toujours la liberté ressentie à l'arrivée dans chaque pays, découvrir les différentes populations, la façon de vivre dans chaque pays m'a fait vraiment me sentir libre. Le pays qui m'a le plus marqué, c'est les Îles Canaries. Quand je suis descendue au port, c'était magique. Ce paysage était sublime. Ce pays était sublime. Cette flore variée présente, la population si accueillante. Pour moi, il est important d'aller à l'étranger pour découvrir les différentes façons de vivre de chaque pays. J'ai l'impression que de m'ouvrir à des cultures différentes me rend plus tolérante et plus libre. Je souhaite à tous les autres jeunes de découvrir de nouveaux pays.
Je me sens libre quand je chante, parce que c'est le seul moment où je me sens moi-même.
J'ai troqué mes cliques et mes claques, contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier, qu'avant c'est toi qui me pesais.
Je suis heureuse, c'est mon moment à moi, que personne ne peut m'enlever.
Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Ou ma route, ou ma plaine. Dieu que je l'aime.
Le chant, pour moi, c'est quelque chose d'unique où on peut se libérer. Pour moi, ne pas se sentir libre, c'est ne pas être libre de ses choix, être renfermé.
Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage.
Par exemple, si nous ne faisons pas ce que nous désirons, nous ne sommes pas libres. Quand je chante, la joie et la liberté sont là. Ça me calme, ça m'apaise.
Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais.
Se sentir soi-même, c'est être différent des autres, être un individu dès la naissance. Ça signifie avoir une personnalité, avoir un ensemble de caractères particuliers et structurés. Ça signifie être constant dans ses choix, être fidèle.
Et ce qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
Pour ce dernier reportage, nous allons évoquer un domaine qui nous tient particulièrement à cœur, à nous les femmes, le combat féministe pour l'égalité et la liberté. Colline et Chloé vous racontent leur belle rencontre.
Bonjour, nous avons rencontré Marianne Divet autour d'un café à Ciné 32. Elle est militante au planning familial du Gers.
Cette rencontre a été très sympa. Elle nous a raconté des anecdotes rigolotes et nous a aussi montré que la liberté des femmes est aujourd'hui encore menacée.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 64 ans.
Depuis combien de temps êtes-vous adhérente au planning familial ?
Eh bien, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, puisque on parlait tout à l'heure de la recréation il y a 10 ans, et j'ai été informée, et je suis allée à la réunion pour écouter un petit peu les arguments des unes et des autres, et je me suis dit, non, faut bouger. Donc voilà.
Y a-t-il des événements dans votre vie qui vous a poussé à aller dans cette association ?
Alors, cette association-là, oui, parce que dans ma vie professionnelle, j'étais éducatrice spécialisée. C'est vrai que j'ai rencontré des gens en situation difficile. Je pensais que des choses étaient en place dans le Gers. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas tout à fait en place dans le Gers. Il y avait des méthodes pour dissuader, on va dire, par rapport à l'IVG. La loi n'était pas respectée. Ça, ça m'a beaucoup embêté, parce que culpabiliser les personnes qui prennent une décision qui n'est pas forcément facile à prendre, mais les culpabiliser, en rajouter en plus, c'est pas normal. C'est pas ce que prévoit la loi. Donc là, je me suis dit, je vais mettre ma voix avec la voix des copines, et puis je vais faire bouger les choses. Après, sur le plan féminisme, ça c'est toute une vie. C'est toute une vie. On voilà. C'est une éducation, je dirais, qui fait que on se met à réfléchir et on se dit mais c'est pas juste tout ça. Il y a des choses qui sont pas justes. Il y a pas juste. Alors moi j'étais un petit peu rétive pour plein de choses. J'étais pas voilà. Et petit à petit je me suis construit, on va dire, mes références, mes personnalités de référence. Hein, il y a pas que papa maman dans la vie qui montrent l'exemple, heureusement. voilà, il y a des gens que j'ai lu, Simone de Beauvoir, des gens qui étaient déjà un petit peu âgés par rapport à moi, bien sûr à l'époque, mais quand même, voilà, dont les idées étaient en plein dans le mouvement. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être adolescente en 68, donc ça a fait bouger pas mal de choses, voilà. Mais ça fait réfléchir aussi beaucoup. Ça a permis, il y a eu tout et n'importe quoi qui ont été dit par rapport à cette période, sur la liberté sexuelle, ce que c'était, etc., etc. Enfin bref, voilà. Après, j'ai eu la chance aussi d'arriver au moment où la contraception devenait autorisée. Plein de choses comme ça qui font qu'on se dit que ça m'apporte de la réflexion, ça m'apporte une certaine liberté, parce que la liberté, elle est dans la tête. Et puis, ça m'a apporté aussi beaucoup de réflexions par rapport à la solidarité, puisque je ne suis pas libre si les autres ne sont pas libres. Et là-dessus, je crois que c'est très important qu'on puisse se sentir solidaire, parce qu'on est opprimé tout ensemble, d'une certaine façon, par plein de petits détails, par les salaires, par les emplois, par les métiers, par le regard des autres, par la mode, par plein de choses. Et c'est tout ensemble qu'on se libérera. Tout ensemble et tous ensemble aussi, puisqu'il y a quand même pas mal d'hommes qui bougent et qui alimentent leurs réflexions, heureusement. Donc là, on a des chances de pouvoir faire changer la société. Mais c'est un mouvement. Le féminisme est aussi un mouvement politique, oui.
Depuis que vous êtes impliquée au planning familial, combien de personnes avez-vous rencontrées?
Comment je peux mesurer ça? Je ne sais pas. Il fut un temps où deux jours par semaine, j'étais en intervention dans les collèges. Au lycée. Donc à la fin de l'année, ça faisait beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'à peu près par année, on rencontrait à peu près 3000 jeunes. Après, il y a les tables de planification, des tables de prévention dans les festivals. Il y a, je sais pas combien je rencontre de personnes. Je sais pas.
D'accord. Y a-t-il eu des rencontres plus touchantes que d'autres?
Oh, bien sûr. Chaque histoire est. Chaque histoire, c'est l'histoire d'un être humain. Et donc, qui que ce soit, il y a toujours quelque chose de touchant, il y a toujours quelque chose de d'émouvant, il y a toujours quelque chose de respectable, en tout cas, parce que chaque personne a son itinéraire, chacun se bagarre, fait un peu comme il peut, pas toujours comme il veut. Et justement, comment sortir des carcans, comment sortir des lignes qui nous sont tracées, qui font souffrir, comment... Ça, c'est les réflexions de toute une vie pour tout un chacun. Donc, c'est toujours touchant, oui. C'est toujours touchant.
D'accord. Pouvez-vous nous donner des exemples de situations où vous avez aidé des personnes à être plus libres?
Des personnes à être plus libres. Je me rappelle d'un jeune homme que j'ai rencontré pendant un certain temps, qui était très très mal dans sa peau, qui venait d'un village où sa personnalité très ambiguë, hein, entre fille et garçon, il savait pas trop ce qu'il allait choisir d'être. Hein. Son corps était celui d'un garçon, mais très jeune garçon, hein, et qui était mal, quoi. Donc, il se trouvait exclu de plein de choses, quoi, de la vie, du boulot, de sa famille, de voilà. Et il nous avait trouvé un moment, donc voilà. Il disait, mais je sais rien faire. Je dis, si, on a besoin de quelqu'un de grand pour raccrocher les rideaux. Donc, il était venu nous raccrocher les rideaux. On n'y arrivait pas, nous, même monter sur une chaise, on n'avait pas d'escabeau. Voilà. Et je lui ai donné des adresses. Enfin, je l'ai vu pas beaucoup, mais 4-5 fois. Et un jour, je l'ai vu abîmé. Il avait été tabassé par des gens qui avaient profité de lui, on va dire sexuellement, et qui, après, ne supportant pas ce que... eux avaient eu comme, parce qu'ils avaient eu un désir vers quelqu'un du même sexe qu'eux, se rendaient compte qu'ils pouvaient être traités d'homosexuels. Donc c'est le pauvre gars qui s'en est pris plein la tête, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est voilà, je l'ai orienté vers une autre association qui pouvait l'aider, on va dire. Et j'ai pas de nouvelles, je sais pas, j'espère que pour lui tout va bien. C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas.
D'accord, et bien merci d'avoir répondu à nos questions si gentiment.
Avec plaisir.
Remove all the bars that qui passe par. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be stuck.
C'était Nina Simone, femme engagée, compositrice et militante pour les droits civiques aux États-Unis.
Un dernier retour sur nos témoignages sur la liberté, avec les papiers de Maëva et Juliette.
La première fois où mes parents ont eu confiance en moi. Je l'ai ressenti vers l'âge de 9 ans. Contrairement à d'autres personnes, à cet âge-là, je pouvais faire plein de choses que d'autres ne pouvaient pas faire, comme sortir dans mon village ou dans mon lotissement toute seule et rester seule à la maison. Le fait d'être seule à la maison à 9 ans, je me suis sentie plus libre et grande. J'ai pu m'apercevoir que mes parents ont commencé à avoir de la confiance en moi, un peu plus chaque jour. En grandissant, vers l'âge de 14 ans, je pouvais faire des soirées, aller chez des potes, partir en vacances avec mes potes de mon âge. À mes 14 ans, mes parents ont continué à avoir encore plus confiance envers moi. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ils m'autorisaient à sortir avec mes potes, partir en vacances seule. C'est là que j'ai compris qu'ils m'avaient vraiment donné des responsabilités. J'ai pu voir que mes responsabilités s'agrandissaient de plus en plus et je me sentais de plus en plus libre.
Liberté,
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 liberté.
Le moment où je me suis sentie libre est lors de mon dernier spectacle de danse. Après toutes ces années de pratique, ce jour était très important. C'était le dernier que je faisais avant de partir de cette école de danse. C'était un soir d'été sur une belle scène lumineuse dans les arènes de Nogaro. Le fait d'être exposé devant un nombreux public qui te regarde avec joie. D'être entouré de filles qui partagent la même passion depuis toute petite. On était une bonne équipe soudée. J'étais complètement libre en dansant, libre de mes propres mouvements. J'ai senti une grande adrénaline qui montait en moi. Tous ces gestes me rappelaient mon enfance, à danser à tout va, n'importe où. Libre de danser comme on veut et de s'amuser. Sur scène, je ne pensais à rien, j'oubliais tout. Je voulais que ma prestation dure des heures sous ces gros projecteurs de couleurs. Danser me procure du plaisir. Ce spectacle était rempli d'émotions entre les rires et les pleurs.
Chères auditrices et auditeurs, avant de vous quitter, nous voulions vous remercier de votre écoute face à nos papiers et nos témoignages. Pour conclure, Nous vous laissons avec nos premiers micro-trottoirs réalisés au sein de notre établissement,
en espérant que cela vous fera réfléchir à notre vision de la liberté et à la vôtre.
À quoi pensez-vous quand on vous dit le mot liberté ?
La liberté d'expression.
Le statut de la liberté.
Liberté, quand je pense à quoi je pense à des chansons, je pense à des combats menés à travers le monde, je pense aux libertés individuelles, je pense aux libertés collectives, je pense
à Charlie Hebdo.
Pourquoi Charlie Hebdo ?
Bah, parce que sa liberté d'expression, et qu'il y a eu un attentat à cause de ça, et que voilà.
Je sais pas en vrai. Non, arrêtez, je sais pas.
Liberté d'expression, liberté de penser.
Bah, la même chose, ouais, liberté d'expression, les droits, les règles, ce qu'il faut respecter, mais en même temps, avec. Il faut savoir respecter, mais en même temps, il faut être correct.
À la paix, le respect et un monde sans discrimination.
Après, la liberté de presse et.
Ouais, je sais pas.
Être libre de ses gestes, être.
La liberté, oui, il y a effectivement la liberté d'expression, la liberté de penser et surtout pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut et sans avoir de contrat à rendre à personne. Ce serait ça l'idéal.
Quand on me parle de liberté, c'est pas évident.
La liberté, ben, que c'est beau, c'est une belle chose.
À quoi je pense ?
Ben, un régime politique, oui. Celui de la démocratie libérale dont la forme française est la République.
Une illusion, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce monde.
Au niveau des peuples, que chacun puisse se déplacer sur Terre comme il le veut déjà. Ça, on en parle beaucoup actuellement, c'est un gros problème. Et puis ensuite... Chacun fasse ce qu'il a envie de faire dans la limite de respecter l'autre.
Alors, liberté de s'aimer, liberté de naître, évasion, liberté de mourir, liberté d'être jeune, liberté d'aimer. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ça. Quoi d'autre ? Voilà, être libre. Être libre de penser, d'écrire, de faire des voyages.
Je pense complètement à l'inverse. Je pense qu'en ce moment, les libertés sont très bafouées. Voilà.
La liberté, c'est... T'as le droit de t'évader. Voilà.
Un grand merci à Oumarou Camara, Edgar Castera et Marianne Givet pour avoir répondu à nos questions et des remerciements chaleureux à Ciné 32 et Sylvain Pétrinier de Wateco.
Et liberté, et liberté, et liberté,
et tout le monde fait
ouais, 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 ouais,
liberté,
la 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 la,
liberté,
ouh lou 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 lou,
liberté,
DLC,
MRC,
Ducasse,
TLO,
Xiberas,
LCHRN,
Villemur,
Solanier,
Marche Zeng,
RZS,
MPZ.